Salut, c'est Lucien Roy du blog Riche de Temps. Aujourd'hui, je reçois Catherine Berlier. Elle est coach, consultante et auteure de plusieurs livres, notamment « Et si je prenais mon temps » et l'autre livre « Et si j'avais du charisme ». On commence par se présenter rapidement, puis on enchaîne avec des questions générales avant d'aborder les deux sujets principaux de l'interview, qui sont la productivité, qu'on appellera plutôt l'efficience, je vous laisse voir pourquoi. Et ensuite, plus vers la fin, on abordera les relations sociales et le développement personnel. On conclut rapidement avec des questions un petit peu plus originales. Je vous ai coupé le tout début où on fait rapidement connaissance, donc on commence directement dans le vif du sujet. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement en quelques mots pour nos auditeurs.
Oui, bah écoute, moi je suis Catherine Berlier, j'interviens maintenant depuis un peu plus de 20 ans en conseil, formation et coaching. Donc j'anime pas mal de formations et je travaille essentiellement pour des grands comptes, de grandes entreprises françaises et des formations en compétences transversales, c'est-à-dire tout ce qui est communication, leadership, management et efficacité professionnelle. Donc ça, je dirais que c'est ma première casquette.
D'accord.
Une deuxième casquette qui est celle de coach. Donc je suis partie aux États-Unis et en rentrant, je me suis tout de suite mise à faire du coaching. C'était pas encore à la mode en France et donc j'ai démarré. Et donc je fais pas mal de coaching de jeunes talents, mais aussi de managers et de dirigeants. Voilà. Et dernier point, je suis auteur. J'écris des livres. J'ai co-écrit deux livres en management. Et puis, j'ai écrit trois livres en développement personnel.
Ouais.
Efficacité professionnelle aux éditions Erol. Un premier livre qui s'appelle « Et si je prenais mon temps ?» Un deuxième livre qui s'appelle « Et si je choisissais d'être heureux ?» Et un troisième livre qui s'appelle « Et si j'avais du charisme ?»
D'accord, très bien, c'est effectivement ce que j'avais pu voir. Donc je vais me présenter rapidement juste pour que tu me connaisses un peu mieux et peut-être que ça éclairera certaines questions. Donc du coup, moi je suis en ce moment en classe préparatoire, j'ai 19 ans et en fait j'ai une passion pour l'optimisation du temps, donc le gain de temps, l'efficacité et puis aussi les relations sociales. Et donc du coup, j'utilise ces passions comme thème de mon blog qui s'appelle Riche de temps, comme je te l'ai envoyé.
Oui.
Donc voilà, je vais passer maintenant aux questions générales. Donc tu as plusieurs casquettes au final, comme tu l'as dit, tu es auteur, coach, consultante. Et du coup, quel rôle tu préfères parmi toutes ces activités, lequel te tient le plus à cœur?
Alors écoute, je ne vais pas te répondre de façon binaire parce que j'en suis incapable. Ça a été une évolution. J'ai commencé comme formatrice. Je suis un peu tombée dedans parce qu'un jour, la formatrice, je travaillais dans un cabinet RH et je faisais plutôt du recrutement. Un jour, la formatrice est tombée malade. J'ai dû la remplacer au pied levé. Je me suis rendu compte que j'adorais ce métier. Et comme c'était une formation sur la gestion du temps, c'est ce qui m'a ouvert l'esprit à ça. Sensibiliser. Maintenant, après, je suis venue au coaching et ensuite à l'écriture. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tout est très complémentaire, que tout ce qui est formation me plaît énormément parce que c'est dynamique, il y a un espèce d'élan vital, il y a aussi une transmission qui a du sens. Le coaching, j'aime bien, mais c'est, je dirais, il y a plus d'introversion dans le coaching, hein, plus d'écoute, plus de, c'est pas du tout le même exercice. Et puis l'écriture, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui vous fait grandir, voilà. Voilà ce que j'ai envie de te répondre.
Et donc, et en fait, du coup, là, ce que je semble comprendre, c'est que au final, l'intérêt pour la gestion du temps et l'efficacité, ça a été au départ une sorte de choix par défaut.
Au début, c'était un choix par défaut, mais il faut savoir. Enfin, j'ai envie de te dire, j'ai toujours été sensibilisée par le temps. Le côté métaphysique du temps, le temps qui file, le temps qui est, qui ne sera plus. J'ai toujours une espèce de sensibilité incroyable à ce temps qui passe et avec lequel on doit un jour ou l'autre décider d'en découdre. Et donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire j'ai eu envie d'optimiser le temps et en tout cas de transmettre autour de cette efficacité professionnelle. Voilà, j'ai envie de te dire ça.
D'accord, ouais.
J'avais un Parce que rien n'est plus, c'est pas moi qui disais ça, mais rien n'est plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité. Donc, ça vaut la peine qu'on s'y arrête un peu. Voilà.
Effectivement, j'avais jamais entendu cette citation, mais ça fait sens.
Elle est. Oui.
Oui, vas-y, vas-y.
Non, 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 mais voilà. Donc, pour moi, le temps doit être optimisé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit mon premier livre, autour d'une relation au temps très humoristique, un peu décalée.
D'accord, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur le côté
Bah,
humoristique et décalé
oui, si tu
de...
veux, bah, écoute, par exemple, moi je dis que bien gérer son temps, c'est déjà retenir trois choses ou s'appuyer sur trois fondamentaux. La première chose, c'est la lenteur. Réapprendre la lenteur, la monochronie, l'acuité attentionnelle en dépit du foisonnement extérieur et de la polychronie qui nous entoure. Ça, c'est le premier point.
Ouais.
Le deuxième point, mais je parle d'une lenteur vertueuse, évidemment. Le deuxième point, c'est arrêter de faire toutes les choses à moitié, mais de faire plutôt la moitié des choses. C'est-à-dire prioriser, essentialiser, ne plus se perdre dans les méandres de tâches qui n'en valent pas la peine.
Ouais.
Et le troisième point, qui va peut-être te plaire, c'est l'efficience ou plutôt la paresse. La paresse, c'est-à-dire en termes d'optimisation
Ouais, c'est un petit
des
peu lié
ressources dont nous
à, c'est un petit peu lié
disposons
à la
en
lenteur au
termes d'efficience.
final.
Ouais. Donc la lenteur, faire la moitié des choses et réapprendre la paresse. C'est vrai que les gens paresseux, souvent les adolescents, savent déployer des trésors d'efficience pour faire le juste nécessaire. Voilà.
Bah c'est vrai que j'ai pas mal d'amis et ceux qui sont en général le plus efficaces, c'est les plus feignants. Donc je te rejoins pas mal sur ce point. Et du coup, j'ai une question là qui est purement pour les auteurs, parce que je me suis toujours posé cette question et que bah, j'ai encore jamais eu l'occasion de la poser. C'est que bah, du coup, quand tu as des livres qui sont publiés, qui sont bah, de ta main, qu'est-ce que ça fait quand tu rentres dans une librairie et que tu vois ton livre au final qui est sur une étagère qui est là, quoi?
Oh ben, surtout quand tu le vois à la Fnac, t'es content. Mais d'un autre côté, moi, je préfère le voir dans les gens que sur une étagère. Donc il y a aussi deux étapes. Après, il y a l'étape de la, je dirais, du marketing et de voilà. Enfin, ouais, mais c'est vrai que au départ, tu es assez fier.
Ouais, j'imagine. Et du coup, tu as déjà eu l'occasion de, bah, de rencontrer des lecteurs de tes livres
Oui, bien sûr, oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer des lecteurs et puis bah, l'idée après, c'est d'être toujours dans le livre d'après. Voilà.
Bah, du coup, en fait, toi,
Donc,
ton processus, c'est qu'une fois que tu as fini un livre, t'en commences un autre ou tu as toujours un nouveau projet
non, pas
à commencer?
là, bah, oui, j'ai un projet, mais d'un livre un peu différent, je dirais. Plus sur la communication, plus sur je dirais, sur la communication manipulatoire en entreprise, voilà.
D'accord, bah
J'ai un ou deux projets de livres, voilà.
ça on pourra y revenir un petit peu plus à la fin quand on parlera de relations et tout ça. Dans ta petite présentation, tu t'as dit que tu travaillais beaucoup avec des grands comptes, mais tu as aussi parlé de jeunes talents. Donc en fait, les personnes que tu accompagnes le plus souvent, c'est plutôt des étudiants, des cadres de
Alors
ces grandes
écoute,
entreprises.
j'ai fait beaucoup. Alors dans le cadre pour les étudiants, j'ai fait beaucoup de, comment dirais-je, de coaching de tuteurs dans l'entreprise. Et donc ça, c'est les tuteurs qui eux-mêmes tutorent ou coachent des jeunes. Et moi, j'accompagne des jeunes talents. Donc a priori, ce sont des jeunes qui sont déjà en poste et qui cherchent à aller plus haut, hein, à non pas monter en compétences, mais surtout à trouver des orientations qui correspondent beaucoup plus à leur talent.
D'accord, ouais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que, enfin, une question que je me pose souvent, c'est qu'au final, les gens qui viennent consulter un coach comme toi, ou est-ce qu'ils viennent plutôt tout seuls, ou est-ce que, par exemple, ils peuvent être poussés par leur entreprise, leur famille, ou différentes relations qui les encouragent en fait
Alors,
à s'améliorer?
Oui, alors bah, écoute, j'ai les deux, sachant qu'évidemment, le coaching ayant un coût, ce sont souvent les entreprises qui poussent en avant et qui proposent des coachings à leurs contributeurs, hein. Ce que je vois, c'est qu'avant, le coaching était réservé à l'élite de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, quelque part, on s'aperçoit je dirais, des limites de la formation ou de la formation à outrance, puisque maintenant, la formation, tout le monde a accès à la formation. Et je dirais que trop de formation, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose qui en sort. Et à ce moment-là, les entreprises orientent vers du coaching. J'ai envie de dire que sur une période de 15 ans, je vois qu'il y a énormément de coaching maintenant qui sont proposés pratiquement dans toutes les strates de l'entreprise.
D'accord, ouais, donc
C'est
peut-être
plus réservé
plus.
à des privilégiés, entre guillemets.
Ouais, donc du coup,
Mais c'est
peut-être
souvent
plus
entreprise.
dans une
Alors j'ai des
optique.
cas à titre personnel, des gens qui viennent, mais évidemment, j'en ai moins. Hein. J'interviens surtout dans le cadre de l'entreprise.
D'accord, ouais.
Mais il m'arrive encore de coacher des jeunes, voilà, même des étudiants, voilà.
Très bien. Bah donc du coup ça c'était mes questions un petit peu générales voilà qui n'ont pas, enfin, pas forcément lié avec un thème particulier. Et maintenant ce que je te propose c'est qu'on aille un peu plus dans la productivité en tant que telle. Donc
D'accord.
du coup donc t'accompagnes pas mal de personnes et donc du coup quel est le plus gros problème qu'ils ont quand ils arrivent pour venir te voir qu'est-ce qui leur pose le plus de problèmes dans leur productivité, leur efficacité?
Écoute, on assiste aujourd'hui à une croissance exponentielle de leur plan de charge. Hein, c'est vraiment, on en demande finalement les contributeurs ou les collaborateurs font souvent le travail de deux ou trois personnes. Et donc, ils ont ce sentiment de ne pas y arriver. Ils ont le sentiment aussi de ne pas être à la hauteur, alors qu'en fait, ils cumulent finalement pratiquement deux emplois. Hein, donc là, il y a déjà une espèce de leurre auquel ils doivent répondre, évidemment. Hein. Donc moi, je viens en appui pour tenter à la fois bah de les aiguiller sur une meilleure connaissance d'eux-mêmes, puisque finalement la gestion du temps, ça ne sert à rien de plaquer des méthodes, des outils, des trucs, des astuces. L'idée, c'est véritablement de mieux comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons, dans quel univers ou dans quel système nous vivons, puisque chacun a son vie au sein d'un microsystème avec lequel il doit composer. Et puis ensuite seulement pouvoir trouver les outils, les méthodes qui s'adaptent à chacun.
D'accord, ouais. Donc en fait, dans ta démarche d'accompagnement, il y a une grosse partie qui est vraiment axée sur le développement personnel, même la confiance en soi, j'ai l'impression.
Oui, parce que ça fait partie de, si tu veux, de mon. J'en suis arrivée aujourd'hui à me dire que les mauvais coachs, les mauvais formateurs vont demander de plaquer des choses sans se préoccuper finalement de la personne. Et du coup, ça donne un rendu ridicule. Et puis, les gens ou finissent par oublier ce qu'ils ont appris.
Ouais.
L'idée, c'est que les personnes s'approprient de façon à ce que ça soit beaucoup plus naturel et que ça soit en lien avec leurs valeurs, hein, ou ce qui leur fait briller les yeux. Voilà.
Ouais, et du coup, bah
Mais c'est.
ça me fait
Pardon,
penser à
mais c'est
ta.
autour tout s'articule autour de la confiance en soi.
Ouais, mais du coup, ça me fait penser à une question que je voulais poser plus tard, mais on va la faire maintenant puisque tu amènes le sujet. C'est. Bon, il y a de plus en plus de coachs un petit peu partout, voilà. Et du coup, enfin, c'est quoi la différence entre les bons coachs, comme tu dis, donc qui semblent un petit peu plus personnels, et les coachs un petit peu bidons qui n'apportent pas
Alors,
beaucoup?
oui, parce que vous pouvez avoir des. Enfin, on peut trouver des coachs qui sont certifiés et qui n'ont pas la dimension nécessaire. Je dirais que même moi, dans ma pratique, il m'a fallu pratiquement 15 ans pour arriver aujourd'hui à faire ce que je fais. Et un bon coach, pour moi, un bon coach, il a suivi une analyse. C'est-à-dire, un bon coach, il s'est fait psychanalyser, il sait exactement qui il est. Parce que qui suis-je pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire si moi-même je ne sais pas qui je suis?
Ouais, c'est vrai que c'est du coup c'est en fait le bon coach, il s'est presque fait coacher lui-même par d'autres
Plus que
personnes.
coacher, parce que ça, on appelle ça de la supervision. Alors, bien sûr, ils sont supervisés, mais c'est pas suffisant, hein.
Ouais.
Et j'étais très contente parce que je dois suivre une formation en coaching d'organisation. Voilà, parce que maintenant, je me rends compte de la limite de mon métier en me disant, bah, tu coaches des gens, finalement, ils retournent dans l'entreprise avec les mêmes problèmes d'entreprise, le même système qui parfois les lamine, pas toujours. Et donc, finalement, je reste assez, même j'ai beau les coacher, il y a quelque chose qui manque. Et donc là, je vais me former en coaching d'organisation pour aller taper plus haut. Hein. Souvent, ce sont les gens qui sont à la tête qui ont besoin d'être coachés.
Mais...
Donc, cette formation à HEC, le prérequis de base pour assister, enfin, pour pouvoir prétendre à s'inscrire, c'est vraiment d'être en psychanalyse pour prétendre. Donc, ça me rassure parce que je me dis que comment dirais-je, bah, ça va, tous ces coachs qui fleurissent maintenant, dès que quelqu'un est au chômage, il veut être coach,
Ouais.
ça remet en perspective pas mal d'interrogations sur ce qu'est justement un bon coach.
Et du coup, en lien avec les personnes coachées, est-ce qu'il y a des, enfin, je pense qu'il y a une part de modestie dans le fait d'accepter d'être coaché au final, puisqu'on accepte d'être, enfin, pas vraiment
Alors
évalué,
ça, c'est
mais.
très intéressant ce que tu dis, parce que c'est très français en fait ça. Je vois aux États-Unis, c'est comme le fait d'avoir un coach, je dirais c'est indispensable.
Ouais, parce qu'en France, j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement valorisé. C'est un petit peu, t'as besoin d'un coach, t'es bizarre.
C'est comme les gens qui vont, oui, enfin oui, un coach, on se dit tiens, il a besoin, et en même temps. C'est une façon, c'est un guide, c'est une volonté de progresser. Moi, je trouve ça, enfin, indépendamment de mon métier, je trouve ça intéressant et valorisant. Au contraire, ça veut dire que je m'intéresse à moi et que j'ai envie de cheminer et de me faire aider pour cheminer.
Ouais, bah c'est vrai que ça, enfin, aujourd'hui avec peut-être le développement du développement personnel, enfin, les mentalités vont peut-être changer, mais effectivement c'est toujours pas très
Peut-être
pas
chez les jeunes, ça. Enfin, je me rends pas compte. Les gens de ta génération, s'ils ont envie de se faire coacher. En tout cas, aux États-Unis, le coaching est vraiment présent partout, que ce soit pour apprendre à parler, à communiquer. Enfin, c'est sur différentes thématiques. Ça permet à un moment donné d'aller plus vite,
Bah ouais,
de se faire
enfin,
aider.
ça moi je le vois bien parce que je me suis intéressé un peu au domaine, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que un des problèmes pour les jeunes justement, c'est qu'au final, bah voilà, un coach comme tu le disais, ça a un coût. Et puis après, il y a le problème
Voilà.
de charlatans au final qui vont
Oui, et
rien
puis avec
apporter, quoi.
le coach, il doit y avoir un fit. C'est un peu comme quand tu choisis un médecin ou même un psychanalyste ou voilà, tu dois
Ouais, faut que les deux
avoir
personnes
un
se
feeling
ouais,
avec la
un feeling, ouais.
personne. Donc c'est pour ça, moi je reçois la personne gratuitement d'abord. Et la personne voit deux ou trois coachs, et puis c'est la personne qui choisit.
Ça, c'est vrai que c'est je pense c'est un bon système parce qu'au final si même pour le coach si elle a enfin si on arrive avec quelqu'un qui est pas très réceptif à notre façon de faire, ça risque d'être assez pénible.
Oui, voilà. Donc, bon, voilà, tu sais tout
Ouais,
sur ma façon de voir les choses, en tout cas le coaching.
bah très bien. Et donc du coup, enfin, il y a beaucoup de, il y a des méthodes de productivité dont on entend pas mal parler sur Internet, notamment Zen to Done et Getting Things Done de David Allen. Je pense que tu en
Oui,
as déjà
oui,
entendu
oui.
parler. Et justement, enfin, il y a Je trouve qu'il y a certaines questions qui se posent par rapport à ces méthodes, parce que bah, moi en ce moment je mets en pratique la méthode Zen to Done. Est-ce que tu connais déjà la méthode Zen to Done?
Oui, je la connais évidemment. Ben, l'idée, c'est, là, tu vois, tu le dis toi-même, c'est des méthodes. Après, tu vas les appliquer avec ton intelligence émotionnelle et tu vois que il y a d'autres choses qui vont venir s'intriquer. Ça, c'est vraiment le côté tactique, si je puis dire, de la gestion du temps ou de la productivité. Enfin, j'aime pas le mot productivité parce que c'est, j'ai une théorie là-dessus. Je sais pas si ça t'intéresse. Je parle plutôt d'efficience.
Bah ouais, vas-y, développe, ça m'intéresse
Alors,
le...
je parle d'efficience parce que la productivité épuise la ressource humaine,
D'accord, ouais.
tandis que tandis que je dirais que l'efficience respecte la richesse humaine. Dans un cas, la productivité, tu vois, on est un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Je
Oui.
dois produire, je dois faire de mieux en mieux, je dois surseoir à la demande, voilà. Donc là, je suis considérée comme une ressource. Et une ressource, comme chacun sait, ça s'épuise. Tandis que je dirais que l'efficience respecte la richesse humaine. Dans l'efficience, la personne va réfléchir au mode opératoire qu'elle va utiliser tout en s'économisant. C'est-à-dire, c'est un ratio entre. C'est un peu, je compare l'efficience, c'est comme un sportif de haut niveau qui est toujours en questionnement pour savoir comment il va pouvoir courir le 100 mètres, non plus en 10 secondes, mais en 9 secondes, en étant moins essoufflé, moins courbattu, moins fatigué. Hein,
Ouais,
donc, il y a
donc
cette.
l'idée c'est, en fait la productivité pour un petit peu résumer tout ça, ce serait des méthodes qu'on plaque et puis au final l'efficience plutôt quelque chose qu'on adapte qui est un peu sur le long cours pour...
Oui, moi j'ai envie de dire que l'efficience, il y a une espèce de respect de l'humain. Hein. Je suis pas, voilà, je suis pas un pion dans l'entreprise. Je suis un humain. C'est pour ça qu'on parle même plus de ressources de RH, mais de RI, hein, de ressources inhumaines. Hein, non.
D'accord, je ne savais pas, mais très, très bien.
Non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui
Ah, d'accord.
le dis. Non, non, c'est moi qui le dis de ce que je vois. Il se passe des tas de choses dans les entreprises, c'est assez terrible.
Bah,
Et
justement,
du coup, voilà.
j'avais pas pensé à te demander ça, mais moi, j'ai travaillé cet été et j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui ne se plaisaient vraiment pas dans leur travail. Et est-ce que, enfin, j'ai du mal à croire que être coaché, ça pourrait vraiment les aider, enfin, être coaché dans leur
Alors,
travail,
être
j'entends.
coaché sur leur. Oui, parce qu'un bon coach va les orienter vers le. Via donc des indicateurs de personnalité, vers ce qui leur correspond, hein, vers le travail qui correspondra à leur schéma cognitif, à leur appréhension du monde extérieur. Simplement, souvent, le système est pervers parce que vous avez affaire, par exemple, à des gens qui travaillent, j'en ai coaché. Non, j'en ai pas coaché, j'en ai formé dans l'administration qui voudraient changer de job mais qui ne le font pas parce qu'ils ont énormément d'avantages. Vous voyez, ils sont un peu pris entre
Oui,
le
ouais.
marteau et l'enclume et du coup,
Ouais, ils sont incités
ils
à
s'en
rester pour
éviteraient.
des mauvaises raisons
Oui. Oui.
personnelles, quoi. Bon, du coup, on va peut-être refermer la parenthèse entreprise pour l'instant.
D'accord.
Et du coup, bah, parmi les gens qui vont nous écouter, il y en a beaucoup qui débutent vraiment dans le domaine de l'efficacité, de la productivité. Et du coup, par où est-ce qu'il faut commencer quand on approche cette notion, bah, de productivité ou d'efficience, en fonction de notre
Bah
approche?
je reviens sur mon dada, par la lenteur et par le kaizen, c'est-à-dire la volonté de s'améliorer en permanence, à petits pas. Et cette quête de qualité pour soi, qui fait que j'avance à petits pas et que je me mets des objectifs, en termes de temps, ça passe souvent par la rigueur et par une autodiscipline très féroce. L'idée, c'est de mettre en place des automatismes et ces automatismes, les mettre en place à petits pas. Et voilà.
Ouais, bah
Premier
ça me
automatisme,
fait plaisir
c'est
de
arrêter
t'entendre.
de se disperser, arrêter d'être dans cette polychronie ambiante, savoir résister, c'est ce que disent les personnes en neurosciences, enfin les chercheurs en neurosciences nous disent que nous ne travaillons plus notre acuité attentionnelle.
Oui.
Et nous sommes des zappeurs fous. Et donc la première chose, c'est... Alors, je dirais que la mindfulness et tout ce qui arrive, la méditation, ça va être un balancier qui va nous refaire passer de l'autre côté, du côté de la lenteur, justement, hein. On sentait qu'il y avait un vrai besoin, hein, parce que là, tout allait de plus en plus vite. Voilà, et maintenant, l'attention à l'instant, qui est une bonne chose, hein, finalement.
Mais
Ça,
du coup,
savoir
la
se
méditation,
mettre
tu
dans cette...
penses que ça va vraiment avoir un apport dans les entreprises et tout ça, ou est-ce que ça va simplement être un peu comme un pansement sur une jambe de bois où les gens se disent
Moi,
qu'ils font de la
je pense que
méditation et c'est bon?
c'est... Alors, je pense que c'est... Il y a un phénomène de mode. Il y a un phénomène de récupération par les entreprises qui disent, ah, ben, on a fait tout ce qu'il fallait pour nos...
Pour
pour
nous.
nos collaborateurs, cadres et co. Et regardez, d'ailleurs, nous avons mis en place. Bon, après, je dirais, c'est quelque chose de très personnel. Maintenant qu'il y a une sensibilisation dans les entreprises, pourquoi pas, hein? C'est plutôt vertueux.
Ouais.
Bon, mais je me méfie un peu des effets de mode, voilà.
D'accord. Et donc
Mais
justement,
je
très en
trouve ça
lien.
bien, hein? J'ai pas de, j'ai moi-même fait un stage de méditation d'une semaine. J'en suis rentrée essorée. Voilà, après le tout c'est de continuer.
Oui, enfin moi la méditation, c'est vrai que j'ai peut-être un avis qui bon, n'est pas rejoint par tous les grands fans de méditation, mais je trouve que c'est que la manière un petit peu actuelle de méditer simplement, soit en étant méditation de pleine conscience ou en ne faisant rien, ou je trouve qu'il y a plein d'autres manières de méditer, par exemple dans le sport ou des choses comme ça, qui sont pas assez mises en avant et qui apporte
Voilà.
des bénéfices sur des plans différents. Et du coup, moi, c'est plutôt ça que j'explore en ce
Oui,
moment
tout à
actuellement.
fait. Donc chacun doit finalement, là encore, trouver ce qui lui correspond. Vous avez des personnes très statiques qui ont adoré méditer ou qui sont vraiment dans une introspection qui va bien avec la méditation ou un calme qui va bien. D'autres, ce sera le yoga. D'autres, ça va être simplement être en adéquation avec la nature, dans le silence, voilà. Enfin, mais je ne suis pas une spécialiste de la méditation.
Bah moi non plus de toute façon. Donc, là on parlait pas mal d'entreprise. Donc dans l'entreprise il y a un sujet qui est important, c'est les mails. Et est-ce qu'il y a une sorte de... Enfin, j'aime pas trop parler de manière miracle, mais un moyen de traiter ces mails assez efficacement pour éviter justement d'avoir ces distractions permanentes. Avec les mails qui arrivent
Alors,
en permanence, quoi.
traiter ces mails, c'est... Alors moi, la grande règle que je donne, c'est d'éviter d'aller les voir, de regarder ces mails au fil de l'eau, mais de faire des... d'identifier des plages horaires dans sa journée, et de s'obliger à aller voir ces mails et à les traiter sur ces moments qui sont donnés. Alors, nous ne sommes pas égaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais faire ça parce que ils sont obligés de regarder leur mail en continu. Mais pour les autres, l'idée c'est de regrouper ces activités, regrouper la lecture de ces mails, de façon à éviter les phénomènes d'aller et venir.
Ouais.
Et puisqu'on compte pratiquement 60 secondes de perdu par aller-retour sur un mail
Oui, avec
sans
du temps pour se
traitement.
reconcentrer ensuite après la
Oui.
lecture pour se remettre dans la tâche précédente.
Pardon?
Je dis, il y a un temps après la lecture du mail un peu de distraction qui nous empêche d'être d'immédiatement retourner à la tâche qu'on était en train de réaliser.
Oui, en plus, si vous avez quelque chose d'important et que vous allez voir votre boîte mail juste avant, vous êtes sûr que vous ne ferez jamais vos choses importantes, hein.
On est
Ça fait
assez
partie.
d'accord, Du coup, pour finir la partie sur l'efficacité, est-ce que tu es convaincu de quelque chose dans le domaine de l'efficacité, par exemple que tu dis à tes coachés régulièrement et qu'ils ont beaucoup de mal à croire la première fois que tu leur dis?
Ben la lenteur. La lenteur. Ils ont beaucoup de mal à croire ça. Et puis en fait, ils s'aperçoivent que L'idée, quand vous vous mettez dans cette acuité, d'ailleurs, il suffit de regarder, souvent il y a des jours où vous avez tourné comme une hélice, vous n'avez pas arrêté de la journée, vous êtes passé d'un dossier à l'autre, vous avez été dérangé, vous avez, voilà. Et le soir, quand vous regardez votre to-do list, au stupeur, vous vous apercevez que vous n'avez rien fait.
Oui.
Et puis vous pouvez voir, observer des gens très lents, souvent vous vous dites, mais celui-là, il a deux de temps. Puis quand vous vous faites le bilan de ce qu'il a fait, bah finalement, il a abattu un énorme travail. En tout cas, les chercheurs nous disent que la monochronie, contrairement à l'intuition que cela nous donne, eh bien, nous sommes beaucoup plus efficaces en étant monochrone,
Ouais, c'est vrai que
dans un seul
ça,
temps
je
à
le
la
lis
fois.
beaucoup. Ça se diffuse de plus en plus cette idée. Et puis je trouve que, enfin moi, avant je perdais quand même beaucoup de temps. Maintenant j'en perds moins au fur et à mesure de ma recherche d'efficacité. Et effectivement, plus j'avance et plus j'aime prendre mon temps en fait avec le temps que j'ai gagné, quoi.
Voilà, et l'idée, c'est d'être aussi, je m'aperçois que les personnes qui s'organisent le mieux ont une rigueur absolue, une autodiscipline très forte et beaucoup d'automatisme. Ce sont des métronomes, hein, avec des temps dédiés, dans la journée pour chaque chose, une espèce de régularité dans l'action, et beaucoup d'autodiscipline, je dirais, voilà, d'exigence.
Du coup, on a pas mal parlé là de productivité, d'efficacité, et maintenant on va pouvoir passer aux relations sociales et donc dans un côté qui va être un petit peu plus développement personnel en tant que tel, donc notamment en lien avec le livre « Et si j'avais du charisme » et du coup là, est-ce que ne pas vraiment savoir se comporter enfin, est-ce que le manque d'aptitude sociale, c'est un problème que tu constates vraiment beaucoup en entreprise ou c'est un peu marginal?
Oui, ça m'amuse d'ailleurs parce que souvent voire même je coach ou je rencontre des gens qui sont très cortiqués, hein, qui sont très intelligents, qui ont fait de grandes études. Et puis souvent, vous apercevez que c'est des bras cassés en termes de quotient émotionnel. Et donc en fait, ils sont comme amputés d'une partie de la perdue. Enfin, il leur manque un pan entier de personnalité, qui fait que, vous voyez, et que tu vois, il manque cette espèce de complétude. Voilà, donc pour moi, le charisme, dans le mot charisme, il y a le mot charme, et il y a le mot cœur, hein. Donc aujourd'hui, le mot est très dévoyé, hein. On dit les charismatiques, il est charismatique, c'est parce qu'il est beau et qu'il parle bien. Mais j'ai envie de dire, c'est pas seulement ça le charisme. Le charisme, c'est une personne qui, ben justement, qui a du cœur, qui est un humaniste. Je parle du charisme vertueux, hein, parce que je n'ai pas envie de parler de ceux qui trompent et qui leurrent. Mais voilà,
Oui.
le charisme vertueux, ce sont des gens qui sont dans le charme, le cœur, et qui instaurent un lien avec l'autre. Et donc, on le voit bien dans l'entreprise, ce qui différencie un manager d'un leader, c'est que souvent le leader, sans être charismatique, a déjà quelques ferments du charisme.
Avant même de
À
savoir en fait
savoir.
ce que c'est et d'avoir étudié ça scientifiquement, c'est ça que tu veux dire?
J'ai pas compris ce que tu dis.
Je veux dire, tu dis donc, tu différencies le leader et le manager, et au final, le leader, même sans le savoir, il a du charisme, enfin, il met en place
Il a les
des.
ferments, parce que pour moi, les gens qui sont véritablement charismatiques, il y a une telle dimension derrière le vrai charisme que je dirais qu'il y a très peu d'élus, hein, il y a très peu d'élus. Mais aujourd'hui, on dit beaucoup, ah ben oui, il parle bien, il est sympathique, il est joyeux, il est extraverti, il crée du lien, il est charismatique. Le charisme, c'est beaucoup plus que cela. Je dirais que c'est une complétude de la personnalité, hein. C'est une forme de. Voilà. Il y a très peu de gens charismatiques.
Ouais, enfin, on peut pas être charismatique sans être vraiment à l'aise avec soi-même, quoi.
Voilà, c'est ça. Je ne peux pas dire, même si vous voulez muscler votre charisme, ça va passer inexorablement par votre développement personnel et c'est parce que vous serez très bien avec vous-même que vous n'aurez pas peur des autres. Et qu'en n'ayant pas peur des autres, et bien finalement, je vais pouvoir me livrer aux autres, je vais pouvoir exprimer mes besoins aux autres. L'autre ne me fera pas peur. Voilà.
D'accord. Et donc, ce manque de charisme, enfin, du coup, c'est une notion qui est assez vaste, et c'est ça le défaut le plus commun en entreprise, ou alors il y a des, on va dire des plus petits défauts qui compliquent la vie
En
des.
entreprise, je trouve que sans vouloir généraliser, beaucoup de personnes, c'est un peu chacun pour sa pomme. Et je dis toujours, les gens sont pas élevés, ils sont nourris, ils sont pas éduqués, ils sont nourris. Donc, une forme d'agressivité, qui sévit. Les personnes sont toujours beaucoup de personnes sont sur la défensive. Il y a des jeux de pouvoir.
Ouais, peut-être un peu trop de compétition au
Voilà.
final pour que ça fonctionne
Il y a une
vraiment bien, quoi.
compétition, enfin,
D'accord, ouais.
chacun se méfie de l'autre, voilà.
Et là, on avait parlé du coup des coachs un petit peu tout à l'heure. Et dans le développement personnel en particulier, il y a beaucoup de gourous avec des recettes un petit peu miracles et universelles. Et il y en a surtout beaucoup qui sont, je trouve, influencés par les États-Unis, qui semblent être, qui sont en avance. Et il y a des conférences, par exemple, je pense à Tony Robbins, je pense que tu vois,
Oui.
c'est des conférences qui sont un peu comme des shows. Et est-ce que ça a vraiment un sens de faire du développement personnel comme ça? Est-ce que c'est vraiment du développement personnel?
Alors, moi, je veux pas du tout porter atteinte à ce que font ces personnes. Simplement, je dis que c'est une approche personnelle, le coaching. C'est pas quelque chose qui se partage. Donc c'est pour ça que ça, là, ces grandes messes et tout ça, je dirais, c'est très bien quand on veut faire du marketing. Pour gagner beaucoup d'argent et faire du marketing, oui, c'est une super technique. Bravo. Mais pour s'intéresser vraiment aux autres et non pas à soi, sans narcissisme, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de ces personnes qui finalement tout tourne autour de la personnalité du coach plus que de la personnalité du coaché. Hein. Et donc je me mets en scène, donc il y a une espèce d'hystérisation de la personnalité du coach qui est, je dirais, qui est, de mon point de vue, qui va à l'encontre de ce qu'est réellement la relation du coach à son coaché.
Ouais, enfin, du coup, c'est un peu l'idée, enfin, le centre de gravité n'est pas au bon endroit, quoi. Normalement,
Voilà, tout
enfin,
à fait, très
ouais.
juste ce que tu dis. Oui, c'est voilà. Le centre de gravité, le focus est là, enfin de ce que je vois, est beaucoup plus sur le coach que sur le coaché.
Et là, on avait parlé un petit peu tout à l'heure du développement personnel en France. Et justement, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on voit une personne qui s'intéresse au développement personnel, on se dit qu'il a forcément un problème pour pouvoir s'intéresser à ça. Alors que moi, je
Oui.
suis complètement convaincu de l'inverse. Et du coup, ça. Est-ce que, du coup, en France aujourd'hui, il y a des gens qui viennent te voir volontairement, mais qui n'ont pas de, enfin, qui n'ont pas un problème en tant que tel, quoi.
Tu me demandes si les gens viennent me voir volontairement?
Non, plutôt si des gens qui n'ont pas identifié de problème particulier chez eux, par exemple quelqu'un qui n'est pas à se dire je n'ai pas confiance en moi donc ça me fait rater ma vie, mais quelqu'un qui est relativement, je vais dire normal, ça veut tout et rien dire, mais quelqu'un qui ne semble pas avoir de problème particulier, mais qui s'intéresse quand même à la démarche du coaching et qui veut en apprendre plus sans qu'on lui ait souligné un problème qu'il avait ou.
Ben, ça correspond souvent à un besoin. Le besoin, je vois, je coach dans l'entreprise en tout cas, parce que je fais beaucoup plus du coaching d'entreprise que du coaching de vie, entre guillemets. Le coaching d'entreprise, c'est Est-ce que je suis capable de m'adapter à mon nouveau job? Est-ce que je sais prendre en main le management qui m'attend alors que j'étais technicien? Ou est-ce que je sais asseoir mon autorité? Ou encore est-ce que je suis capable de donner la vision à mes équipes et pourquoi je ne donne pas la vision? Et donc tôt ou tard, même si ce sont des problématiques enfin, d'entreprise, nous retombons toujours derrière, enfin toujours en amont sur des problématiques personnel, ça renvoie toujours au personnel. Par exemple, quelqu'un qui rentrerait systématiquement en conflit avec d'autres équipes, bon, ben, ça traduit probablement quelque chose de plus profond. L'idée, c'est d'aller avec la personne, je dirais, voir ce qui se passe et de chercher comment améliorer certaines situations.
D'accord, ouais. Et tout à l'heure, donc on a parlé, on a, tu m'avais dit que tu faisais bientôt une formation sur le coaching d'organisation. Et donc du coup, dans ce type de coaching, est-ce qu'il y a peut-être une dimension collective qu'il n'y aurait pas
Il y
dans
a une
un...
dimension collective, oui, tout à fait.
Du coup, il y a un peu des
Donc, qui
sortes
va
de...
plus avec le, je dirais, avec la synergie nécessaire pour faire avancer des équipes.
Ouais, parce qu'au final, il faudrait que, bah, que tout le monde reçoive le... Enfin, pas le même coaching, puisque c'est individuel, mais qu'ils reçoivent un peu les... des bases communes pour pouvoir avancer ensemble, parce que j'imagine qu'une personne qui a
Voilà,
été plus
voilà.
avancée que les autres
Donc, en
n'arrive
fait,
pas...
oui, c'est ça. Tout à fait.
Ok, bah du coup, j'ai encore trois questions un petit peu plus originales, enfin deux questions plus originales qui viennent à la fin. Et donc la première, c'est s'il y avait un livre que tu pouvais offrir à tous les gens qui sortent du lycée ou qui rentrent dans la vie active, ce serait quel livre et pourquoi?
Alors écoute, qu'est-ce que ça ferait? Ben, ça pourrait être. Mais ça m'ennuie parce que c'est déjà un best-seller, alors c'est dommage. Tu dois l'avoir lu, c'est le Timothy Ferris.
C'est lequel? Parce qu'il y en a, il en a écrit.
La semaine de 4 heures.
Oui, la semaine de 4 heures, je l'ai vu, effectivement. Mais moi, j'ai trouvé, enfin, sur la semaine de 4 heures, que ça m'a pas énormément parlé, étant donné que je suis pas encore à ce stade-là. Enfin, j'ai l'impression que ça parle. Je pense que ça peut beaucoup parler à des salariés ou à des gens qui sont dans la vie active déjà. Mais en tant que bah, qu'étudiant qui n'a jamais, enfin, qui n'a jamais travaillé au sens de gagner de l'argent. Il y a toute une partie du livre qui m'a pas du tout touché au final, comme beaucoup, enfin pas autant que beaucoup le disent, quoi.
Alors, qu'est-ce qui t'a touché, toi, comme livre?
Bah, moi, les livres, il y a déjà Comment se faire des amis de Dale Carnegie, j'ai trouvé que le principe était très intéressant. Je sais pas si tu le
Oui.
connais.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Je l'ai lu il y a bien longtemps. Et c'est vrai que mais c'est un livre qui s'intéresse plus à tout ce qui est phobie sociale, enfin, qui au départ était plus fait pour les gens qui sont dans la phobie sociale. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il ouvrait il donnait pas mal de leviers, hein, des leviers très intéressants. 40 millions de livres vendus, c'est quand même incroyable.
Ah bah oui, c'est
Donc,
clair, ouais.
voilà, c'est super. Moi, je conseille beaucoup les jeunes. Je leur dis de lire des livres en PNL, mais je ne vais pas aborder ce sujet, ce sera pour une autre fois. En PNL, en programmation neuro-linguistique.
Et moi, j'ai prévu de m'y intéresser, entre guillemets. Juste si tu as un livre à me conseiller comme ça pour commencer, vraiment commencer l'approche de ce domaine.
Alors, il y a des livres de Josiane de Saint-Paul. Alors, j'ai plus les titres s'il y en a tellement. En programmation neurolinguistique, je dirais tous les livres de Josiane de Saint-Paul.
D'accord, bah
Hein.
je regarderai
Il
ça.
y a un livre qui s'appelle, je crois, de mémoire, Derrière la magie, la programmation neurolinguistique. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Elle l'a écrit avec quelqu'un qui s'appelle Alain Kayrol
D'accord, ouais.
et Josiane de Saint-Paul, Derrière la magie.
Ok, très bien, bah c'est noté. Je pense que ça fera une lecture future.
Et puis mes livres.
Évidemment, j'ai pas ajouté des livres que tu n'as pas écrits et que tu voudrais offrir à tout le monde.
Non, non, bah moi c'est très
Mais
modeste, mais c'est vrai qu'ils sont. Je tiens à ce que j'écris et voilà. Mais Josiane de Saint-Paul, super. PNL.
très bien. Et justement, bah, ça me fait penser là à ce que tu me dis. Est-ce que tu as... Enfin, je pense que ça doit arriver à certains auteurs qu'au bout d'un moment, ils ont écrit des livres et puis ils sont plus d'accord avec ce qu'ils ont mis dedans. Enfin, comment...
Avec ce qu'ils ont mis dedans, ah non, moi je suis d'accord avec ce que. Alors peut-être pas les termes, parfois quand je les relis, je me dis zut, là t'aurais dû mettre ça comme ça, bon ça évidemment. Mais je trouve que dans la vie c'est bien d'être unifié, nous évoluons tous, mais sur les thématiques que nous avons abordées ensemble, je n'ai pour l'instant pas changé, non, pas encore changé d'avis. Donc je maintiens, je signe et persiste.
Bah, très bien, parce que je pense
Voilà.
que ça va être un petit peu particulier pour des auteurs qui sont plus trop d'accord avec ce qu'ils ont dit à une époque. Ça, je sais pas, ça doit être un petit peu bizarre.
Mais d'un autre côté, on peut tous évoluer et changer d'avis parce qu'on va vers autre chose ou parce que nous nous sommes rendus compte que ben, ce qu'on avait dit n'était plus d'actualité. Le monde va vite, le monde bouge. Mais sur ce qui a trait à l'âme, entre guillemets, je pense pas avoir changé pour l'instant. Hein. Voilà.
Ouais, d'accord. Et donc du coup, bah là, t'avais parlé de Tim Ferriss, donc ça tombe bien, parce que justement la question du livre, c'est une question de Tim Ferriss. Je sais pas si tu connais son podcast.
Non.
En fait, bah, il a écrit récemment un livre, là, c'est Les outils des géants, donc Tools of Titans.
Il s'appelle comment?
Les outils des géants.
Oui.
C'est un livre, voilà, qui est tout orange. Et donc en fait, il résume des podcasts, donc qui sont des interviews qu'il a fait avec des grands noms un peu bah, internationaux. Et donc du coup,
Oui,
il
super.
parle de leurs pratiques, donc que ce soit sportif ou que ce soit un peu des idées qu'ils ont particulières. Et donc voilà, c'est de ces interviews qu'il a des questions qui sont assez originales, bah, comme cette question du livre que j'ai reprise et que j'ai trouvée très intéressante. Et ma dernière question, elle vient aussi de Tim Ferriss, et je pense que c'est vraiment ma question préférée. C'est que si tu avais une pancarte à afficher quelque part, ça pourrait être n'importe où, avec n'importe quel message, où est-ce qu'elle serait et qu'est-ce qu'elle dirait, cette pancarte?
Où serait cette pancarte?
Ouais.
Elle serait sur mon cœur.
Les gens vont
Si
peut-être
je
pas la
devais
voir.
l'afficher sur moi?
Non, c'est comme un panneau, enfin un peu l'idée d'un panneau publicitaire entre guillemets.
Où est-ce que je devrais l'afficher?
Ouais.
Ben je me transformerai en femme sandwich.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens que tu croises du coup avec cette
Eh bien, je leur dirais qui n'avance pas recule.
qui n'avance pas recule et ça a une signification particulière pour toi ou
Non, ben ça pour moi, oui, ça a une signification. C'est l'idée de se mettre toujours dans le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration personnelle et professionnelle continue, pour travailler à l'élaboration de soi. Hein, c'est un vaste dessein. C'est une superbe entreprise. C'est souvent l'objet de toute une vie.
D'accord, bah ça fait un magnifique mot de conclusion. Et du coup, si les auditeurs veulent apprendre un petit peu plus sur toi ou éventuellement bah, tes livres, comment est-ce qu'ils peuvent en voir davantage?
Sur mes livres, alors moi j'ai toujours travaillé du bouche à oreille et j'ai pas de site internet. Oh, je suis très mauvaise communicante.
Oh là là.
Mais ils peuvent me lire parce que je suis contributrice chez Forbes.
D'accord.
Forbes.fr et en général dans l'onglet management, j'interviens. A priori, quand j'ai beaucoup de temps, je fais ça toutes les 15 jours. Et quand j'ai un peu moins de temps, toutes les 3 semaines, donc j'écris pour eux sur des thématiques managériales, mais qui ont toujours trait au développement personnel et professionnel. Et sinon, ils peuvent Ah, pour me parler?
Bah, pourquoi pas, ou voilà, s'ils ont une question qui est liée avec cette interview, et puis après, si c'est pas possible, c'est pas non plus. C'est pas grave
Ben,
non plus,
écoute,
faudrait pas encombrer
non,
les emplois du temps.
je suis pas très, tu vois, je suis pas. Écoute, ils peuvent sur Facebook,
Ouais, donc si.
Berlier underscore conseil.
D'accord, bah, je mettrai ça dans la description du podcast, comme ça ils pourront voir directement sans avoir à tout retaper. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette interview vous a plu, auquel cas on pourra en refaire d'autres. On se retrouve très vite, à la prochaine.